Radio Immo et Capital présentent le grand rendez-vous de l'immobilier. En partenariat avec Orpi et Bien Ici. Une émission présentée par Guillaume Chazoulière et Sylvain Lévy-Valency.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. On vous souhaite une très très belle année 2021, en espérant effectivement que cette année portera tous les espoirs que vous avez, beaucoup de réussite, beaucoup de santé autour de vos proches, bien évidemment. Voilà, up exit 2020, vive 2021 avec les projets immobiliers. Comme vous le savez, tous les mois, à partir donc du mois de janvier pour toute cette année, nous allons vous donner, comme d'habitude, avec le grand rendez-vous de l'immobilier, les clés de décryptage pour vos projets immobiliers, toujours accompagnés de l'ami Guillaume.
Comment ça va, Guillaume? Bonne année, Sylvain.
Bonne année, comment ça s'est passé pour vous?
Bon, écoutez, j'ai pris l'air un petit peu, tant que se peut.
Ouais, on n'a pas beaucoup bougé.
Non, mais on a essayé de faire un peu comme on pouvait.
Guillaume, on avait décidé que ce numéro, on l'a souhaité, était dédié, parce qu'en plus c'est très porteur pour ce début d'année, aux nouvelles aides.
Oui, et donc nouvelles aides, ça veut dire APL, MaPrimeRénov, prêt à taux zéro. Nous avons sur ce plateau aujourd'hui Roselyne Conan, directrice générale de l'Agence nationale pour l'information pour le logement, l'ANIL. Bonjour Roselyne.
Bonjour messieurs.
Avec
Bonjour.
Vous, nous ferons le point tout à l'heure sur les nouvelles évolutions réglementaires qui concernent donc ces aides pour les locataires, les propriétaires, les acheteurs.
Avec plein de nouveautés.
Absolument. Et comme chaque mois, ma chère Roselyne, nous aurons également sur le plateau nos experts immobiliers, avocats, notaires, qui répondent à toutes les questions, avec la rigueur qu'on en connaît, des questions qui sont postées d'ailleurs sur le club des propriétaires, des proprios sur Capital. Vous êtes donc dans ce 25e grand rendez-vous de l'immobilier, oui. Déjà le 25e. On se retrouve tout de suite après ça.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
Alors, pour ce premier numéro de l'année, nous recevons donc Roselyne Conan, vous êtes directrice générale de l'ANIL, l'Agence nationale de l'information pour le logement. On va faire le point, si vous voulez bien, Roselyne, sur les aides. Voilà. À quoi avons-nous droit, les problématiques qui sont liées aussi aux jeunes qui s'installent, aux primo-accédants, mais aussi aux jeunes locataires qui arrivent dans les villes pour travailler, par exemple. Voilà, on vous souhaite en tout cas une très très belle année. J'espère que ça a bien démarré pour vous, Roselyne Conan. Et je vous propose, comme la règle l'impose et la tradition dans notre grand rendez-vous, que la première question soit posée par l'ami Guillaume.
Merci Sylvain et rebonjour Roselyne Conan. On va tout d'abord s'intéresser aux locataires, parce que c'est une réforme qui rentre en vigueur dès le 1er janvier, là, enfin qui va progressivement se mettre en place. Cette année, les APL sont calculés selon les revenus de l'année en cours, avec remise à jour tous les 3 mois, vous allez nous expliquer. Et avant, c'était l'année N-2. Alors concrètement, à quoi faut-il s'attendre et comment va fonctionner ce dispositif pour les locataires ?
Alors, on parle tout simplement de l'appel en temps réel, c'est-à-dire que les locataires vont voir donc leur aide calculée tous les 3 mois sur la base des 12 derniers mois. C'est-à-dire qu'avant, on avait une bizarrerie, hein, mais c'était prévu par la réglementation, où on prenait les revenus des 2 années passées. Donc, ce qui forcément impliquait un décalage dans le temps. Et ce décalage, il était plutôt défavorable aux personnes qui entraient dans une difficulté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vos revenus baissent, c'est là où vous avez besoin d'une aide. Et lorsqu'il y avait un décalage important, bon, il y avait un système où il y avait une prise en compte, mais pas aussi importante que ce qui se fait actuellement. Aujourd'hui, à partir du moment où vos ressources vont baisser, comme le calcul se refait tous les 3 mois, justement, cette aide va permettre de vous soutenir dans le paiement de vos charges de loyer. Hein, puisque
La crise là, qui s'annonce, chômage partiel, est-ce qu'il y a des locataires qui vont voir leurs aides augmenter du coup ?
Alors évidemment, on vise ces publics-là hein, qui voient leurs revenus baisser. Donc le recalcul sur janvier, février, mars va se faire donc sur les revenus des 12 mois précédents. Donc si le chômage partiel qui s'est mis en place depuis le printemps 2020 a provoqué une baisse de ressources, à ce moment-là, ce nouveau calcul va provoquer plutôt une bonne surprise pour les locataires, sachant que les CAF vont adresser un courrier à leurs allocataires pour leur expliquer ce nouveau système, okay. Puisque c'est nouveau.
On sera informé.
Caisse d'allocation familiale. Alors, justement, excusez-moi Guillaume, mais... pour la question liée aux, par exemple, les étudiants, ceux qui sont en contrat d'alternance, parce que ce que je comprends bien, hein, vous me dites, hein, en temps réel, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas ces problématiques un peu folles de décalage par rapport à la situation réelle. Donc cette situation réelle prend en compte la temporalité, la réalité. Donc, très bien, hein, pour le... Mais un étudiant, voilà, ceux qui sont en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, par exemple, il y en a beaucoup. Et les étudiants, est-ce que eux, ils vont voir leurs aides baisser ou pas ?
Alors, pour les étudiants et les alternants, il y a un dispositif spécifique de forfait où on va maintenir le montant des aides. C'est aussi pour
d'accord.
ça. Voilà,
c'est donc, ça ne baissera pas pour eux.
C'est ça.
D'accord.
Je voudrais juste faire une dernière question sur les APL. Quand même, une date, à partir de quand elle rentre en vigueur, cette réforme ? Le premier recalcul, c'est quand ? C'est mars ou fin mars ou,
alors,
ou
le,
c'est déjà acté en janvier ?
Alors là, c'est en cours, hein, c'est-à-dire que c'est courant janvier, ou voilà, je crois que c'est le 18 janvier où le recalcul se...
Déjà, on va voir si ça baisse ou ça...
Voilà, exactement, on va pouvoir mesurer cette évolution.
D'accord, et après, donc tous les trois mois,
ça va
fluctuer, en fait.
Ça,
oui, en fait,
potentiellement,
ça
peut...
C'est plutôt bien, non ?
Bah, c'est plutôt juste.
Juste, voilà. C'est plus équitable. D'accord.
C'est ça.
Okay. Alors, ça ne fait pas plus forcément d'aide, mais ça rétablit l'équilibre. Je crois que, Guillaume, vous vouliez poser une question sur les problématiques de rénovation énergétique. On a eu d'ailleurs Emmanuel Wargon qui est venu sur le plateau pour parler de MaPrimeRénov.
C'est une autre grande réforme, effectivement, qui rentre en vigueur cette année. Enfin, là, le 15, je crois que les premiers dossiers sont déposés le 15 janvier. 15 janvier ou 11 janvier plutôt d'ailleurs, ont été déposés le 11 janvier. C'est la prime
Rénov'. En fait, c'est la plateforme qui ouvre à partir du 11 janvier 2021 sur, voilà, pour les nouveaux publics.
C'est la plateforme, c'est ma prime Rénov', nouvelle version, je l'appelle, je ne sais pas
c'est
comment
ça,
le
oui.
grand temps réel, celle-là, elle est à 100% des Français, en fait, 100% des propriétaires qui vont pouvoir, il y a propriétaires de résidence principale, qui vont pouvoir y avoir accès. Concrètement, là encore, quels sont les. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire et nous décrire bien ce dispositif pour que les propriétaires comprennent bien ce à quoi ils ont le droit à partir de
Alors,
2021.
Un petit rappel, donc c'est vrai que MaPrimeRénov, elle vise à faire une démarche simple sur des actes de travaux qui sont bien définis et qui sont les travaux d'isolation, de chauffage, de ventilation ou d'audit énergétique. Mmh. Et ce qui va permettre, donc, via une démarche dématérialisée, de pouvoir déposer son dossier. Bien que, effectivement, on ait déjà démarré les travaux, puisque MaPrimeRénov', elle n'entre pas en vigueur au 1er janvier 2021, elle existe déjà, mais est ouverte, effectivement, aussi aux copropriétaires et aussi aux bailleurs. Bon, sachant que pour les bailleurs, cette plateforme ne sera disponible qu'à partir du mois de juillet. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc, ces travaux donc, sont finançables sous forme de primes, hein, donc ce sont des forfaits, qui vont varier en fonction du niveau de ressources. Des publics.
Donc, logique.
En fait, voilà. C'est-à-dire que...
Comme c'était plus ou moins le cas avant, quand même.
Alors, avant, en fait, MaPrimeRénov' a remplacé...
Le
CITE, et puis pour les aides de l'ANA, Habiter Mieux Agilité.
Ouais.
Puisqu'il existe toujours Habiter Mieux Sérénité. Lorsqu'on fait un projet plus global, MaPrimeRénov' vise vraiment des actions ponctuelles de travaux, sachant que dans le cadre du plan de relance,
mais
il
aussi,
y a eu des bonus.
Mais aussi une rénovation globale, hein. Ça va de 3 000, de 2 000 euros éventuellement.
C'est quoi justement les ordres de grandeur là,
ça peut monter jusqu'à 20 000 euros, je crois.
Alors, si je prends donc, au-delà donc, du montant de MaPrimeRénov' pour changer sa GDR, il y a effectivement des bonus qui ont été mis en place dans le cadre notamment des sorties de passoires thermiques. Là, on est entre 1 500 et 500 euros de bonus, hein, en complément de la prime. On a un bonus bâtiment basse consommation. On a des forfaits rénovation lorsqu'on a un gain énergétique supérieur à 55%. Donc là, on a une prime de 3 500 à 7 000 euros. Donc là, c'est quand on fait vraiment une opération, je dirais...
globale.
Enfin, voilà, qui augmente réellement la performance énergétique. Et c'est vrai que l'objectif, c'est de rendre la démarche plus simple, une lisibilité sur les travaux. Et puis justement, le plan de relance vient un petit peu muscler le montant des aides obtenues. Donc c'est vrai que c'est plutôt un point positif. Et là, les propriétaires, les copropriétaires et les bailleurs qui ont entamé des travaux, je dirais qu'ils pourront même déjà entamer des travaux, puisque ça va fonctionner pour les dépenses qui ont été engagées depuis octobre. Donc,
alors,
même si les travaux sont déjà commencés, alors que une règle très précise des aides de l'ANA disait pas d'aide tant qu'on n'a pas déposé son dossier.
Les grands gagnants de ce dispositif, ça serait qui, selon vous, finalement ?
Tous ceux qui rénovent.
Tous ceux qui rénovent.
Voilà, tous ceux qui rénovent, et je dirais en particulier les ménages à revenus modestes.
On est d'accord, voilà, c'était le sens de ma question.
C'est-à-dire clairement. Que,
ouais. Le fait de dire, parce qu'on a posé la question, on a fait nos journalistes avec Guillaume, on avait posé la question à Emmanuel Wargon, qui nous a dit, on lui a dit, bon, est-ce qu'effectivement il y a une équité ? D'ailleurs, c'est vous, Guillaume, qui aviez posé la question. Effectivement, le gros avantage, c'est qu'il y a une meilleure équité vers les. On est d'accord que c'est les ménages modestes qui sont les plus ciblés par les problématiques d'investissement pour la rénovation de leurs biens.
Sur une même opération, j'avais comparé entre les différents niveaux de revenus. On avait 14 300 euros pour les plus modestes en intégrant également les C2E. Et là, on était, pour les revenus les plus aisés, à 2 700 euros. Donc vous voyez vraiment le différentiel.
Donc c'est très significatif.
Donc l'objectif est vraiment d'accompagner les ménages les plus, je dirais pas fragilisés, mais ceux qui ont le moins de moyens pour faire leurs travaux.
Mais qui sont aussi propriétaires souvent.
Qui sont propriétaires, et qui du coup, pour éviter... Finalement, c'est quoi l'objectif ? C'est faire baisser les factures d'énergie.
Oui,
c'est d'améliorer le confort. Tout ça cumulé, donc c'est inciter à faire des travaux.
Et avec un dispositif qui paraît plus simple qu'un crédit
d'impôt. Plus simple, plus lisible et qui permet de valoriser.
Et pas décalé dans le temps. C'est ça la différence avec le crédit d'impôt.
On va toujours dans le chapitre des aides, Rosine Conan. Guillaume, vous vouliez faire un petit focus sur tout ce qui touche au primo-accédant.
Oui, Sylvain, locataire, propriétaire et donc les acheteurs. Qu'est-ce qui change cette année ? Est-ce que le prêt à taux zéro pour les primo-accédants bouge ? Est-ce que le Pinel pour les investisseurs bouge ? Qu'est-ce qu'on peut en dire, Roselyne ?
Alors, ça va être assez simple. Le prêt à taux zéro, il est reconduit dans les mêmes conditions pour 2021. Donc, c'est... Voilà. Continuer à solliciter du prêt à taux zéro.
Ouais, même condition qui avait déjà été rabotée parce qu'il est à 40%, il est à 20%, mais c'est maintenu à 20%.
Là, voilà, les conditions ne changent pas.
Surtout fort dans le neuf quand même. Hein.
Voilà.
Il y a une histoire de zonage, il y a plein de choses qui ont évolué, mais ça ne change pas.
On va voir sur le site de l'ANIL, on trouvera tout.
Vous avez tout ça, toutes ces informations, vous avez une analyse juridique, c'est vraiment entrer dans le détail, sinon vous avez une page grand public. N'hésitez pas, surtout, surfer sur notre site. Donc sur le dispositif Pinel, une reconduction également. Alors sachant que le prêt à taux zéro, il est reconduit jusqu'en 2022. On aura une toute petite évolution en 2022, mais je viendrai vous le réexpliquer.
Idem pour le dispositif Pinel.
Et pour le dispositif Pinel, il est reconduit également. Peut-être le petit... 2023-2024, on va aller plutôt sur des tendances baissières en termes de taux, de pourcentage, effectivement, de réduction d'impôts. La seule chose peut-être à rappeler, c'est que pour le Pinel, on est sur de l'habitat collectif.
Ah oui. Et plus de maison individuelle.
En fait, c'est ça le... Enfin, on le savait, puisque c'est la loi de finances pour 2020 qui nous l'avait précisé.
D'accord.
Mais là, c'est applicable au 1er janvier 2021.
Ça ne va pas concerner beaucoup de monde, quand même, mais bon, c'est à savoir.
À garder à l'esprit. Non,
mais
le Pinel, c'est plutôt
Pinel,
dans le collectif.
C'était surtout de l'habitat collectif. Et puis, pour rappeler que le Pinel est éligible aux constructions neuves.
Bien sûr.
D'accord. Oui. En échange, effectivement, l'avantage fiscal, c'est un plafonnement des loyers pendant une durée de 6 ans au minimum.
Alors, il y a à la fois des obligations concernant le loyer et des obligations concernant les plafonds de ressources des locataires.
Bien sûr.
Donc, il y a les deux choses.
Merci.
Voilà, merci Rosine Conan pour cette première partie. Décidément, aujourd'hui, on apprend plein de choses pour ce début d'année. Merci à toutes et à tous qui nous écoutaient. On bascule tout de suite avec un petit peu de pub et nos experts. Et on retrouve Roselyne tout à l'heure pour la deuxième partie du grand entretien. À tout de suite.
Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant.
Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir, tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel. Le prochain. Je suis le bien. Celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien.
Harold se sent bien ici. Il y a une bonne boulangerie.
C'est bien ici.
Il est à 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail.
C'est bien ici.
Et il adore nager.
C'est bien ici.
C'est sur bienici.com qu'Harold a eu son coup de cœur.
Et c'est bien ici.
Pour une recherche immobilière innovante, par vie de quartier et temps de trajet. Bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement.
See the man.
trouble in your brain. Anger you retain, pressure rocks you like a hurricane. It's a time for you to jump into the next train. Change of hand, make a stand, I can see your heart change. Wake up, no more nap, your turn is coming up. You feel lazy, but stop the fantasies and bubble dust. If you need a hear, go for it. I will teach you how to feel the things so close to you, connected. Oh,
le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Et encore une fois, on vous souhaite avec l'ami Guillaume une très très belle année 2021. Exit hein, 2020, on oublie. On va tâcher de se faire une belle année. Voilà, merci d'être avec nous. Toujours les bons tuyaux, les bons plans, mais aussi des précisions sur ce qui vous concerne, c'est-à-dire l'immobilier, et c'est un sujet majeur. Vous le savez bien, ça vous concerne, première partie, toujours avec notre ami Vincent Favreau.
Ouais.
Vincent,
oui.
Bonne année.
Eh bien, bonne année.
Comment ça s'est passé pour vous?
L'année?
Ouais.
Écoutez, je suis encore là, ça va.
Voilà. Pas terrible, voilà. Il a tout, voilà. L'essentiel, c'est que vous soyez là. Toujours au taquet avec le club des proprios, n'est-ce pas, Guillaume?
Ouais, avec...
Vincent, on va dire comme ça.
Avec le club des proprios, c'est le groupe Facebook géré par Capital, où vous pouvez poser vos questions à nos experts, et on les reçoit ici, et on les accueille aujourd'hui. Trois experts, et notre première experte, c'est Lorraine Derry. Bonjour Lorraine.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci.
Vous êtes avocate à Paris. Une première question qui nous est posée par Véronique de Toulouse. Elle est propriétaire. Elle a prêté à titre gracieux son appartement à un ami, mais maintenant il refuse de partir. Alors elle se demande comment elle peut récupérer son bien et puis l'expulser quelque part, Véronique.
Alors, c'est original, ça.
C'est original.
Ouais, c'est triste, hein, l'expulsion, mais bon, malheureusement, parfois. Hein.
Et c'est de plus en plus courant.
C'est un cas courant, ça.
Ah oui?
C'est un cas. Oui, bien sûr. Bah, j'en ai en ce moment, d'ailleurs. Comment ça se passe? Une famille qui prête, par exemple, c'est souvent des problèmes familiaux, ouais, ou amicaux. Donc, des parents qui prêtent un appartement à leur fils parce qu'ils rencontrent des galères ou pas d'une manière momentanée, de ce qu'on croit. Mmh. Et la personne ne veut plus partir. Les parents veulent vendre le bien. Enfin, ça, c'est mon cas, par exemple. Bon, ça peut être diverses...
Avec leur propre
autres
enfant.
Raisons. Leur propre enfant, sauf qu'il a 60 ans. Qu'il est propriétaire d'une autre maison, dans mon cas, et que la personne ne veut pas partir. Pire que ça, ils l'ont mis en vente et il a commencé à attaquer les potentiels acquéreurs. Donc, la vente a capoté, évidemment. Et donc, comment ça se passe? Je suis en plein dedans. Eh bien, il faut adresser une sommation de déguerpir. Donc, en gros, c'est une sommation de quitter les lieux.
De déguerpir.
Exactement,
c'est marqué comme ça.
Déguerpir, fait par un huissier. Ouais. Il faut prévoir un délai raisonnable.
C'est-à-dire un délai raisonnable?
Alors, c'est entre 15 jours et un mois. Moi, j'ai pris le parti de prendre un mois pour, ouais, éviter de prendre un quelconque risque. Mais il peut arriver que 15 jours, ça puisse passer. Et si, à l'issue de ce délai d'expiration, la personne en question ne part toujours pas, il faut engager une procédure d'expulsion.
D'accord.
Et donc, de là, partiront une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux. Mais jusqu'à la prise d'effet, il n'y a aucun loyer, il n'y a rien qui est perçu, puisque c'est un prêt à usage gratuit, bien souvent. Sinon, c'est un bail d'habitation, bail verbal. Donc, quand on prête, c'est gratuit. Et,
ça existe
et donc,
un bail verbal? Non. Non.
Bah, évidemment, bien sûr. Bail verbal. Bah, vous prêtez, pas vous prêtez, vous...
c'est quelque chose entre
vous
nous
avez
et
une connaissance, vous avez un appartement, vous lui dites voilà...
je t'héberge.
Ouais. Non, pas je t'héberge.
Je te prête.
Voilà les clés, c'est un ami ou même quelqu'un de naïf, hein, tout simplement. Et tu me donnes 800 euros par mois, verbalement.
Donc il n'y a pas de preuve.
Il n'y a pas de contrat. Ah oui, ça existe,
en fait,
ça, bien sûr.
Le gars, je ne peux plus le virer s'il ne veut pas partir.
Ah bah non.
Alors c'est du squat, ça.
Eh ben non,
ça
c'est pas ça. Alors c'est très. Moi j'ai eu un cas aussi. Excusez-moi, mais là c'est vraiment du concret, c'est du pratique. J'avais un client qui avait donc prêté, enfin pas prêté. Il était propriétaire de sa résidence principale, propriétaire. Hein. Il a rencontré une femme pour qui il a été pris de sentiments très rapidement.
Ça arrive. Hein. Des choses comme ça.
Oui.
Non, mais
du coup,
terrible.
Il est allé vivre chez elle, non, c'est ça?
Elle est allée vivre chez lui.
Ah, oui, elle est allée
se
chez
connaissait à peine.
C'est pire.
J'espère qu'il m'entendra pas, parce qu'il se reconnaîtra très très rapidement.
Ouais.
Non, mais une catastrophe cette histoire.
Et ça a pas
ils
marché.
Ont eu des preuves de texto. Il y a eu des échanges de texto, comme quoi elle lui disait je t'ai laissé de l'argent pour de la nourriture. Bref. Histoire surréaliste, elle n'a jamais rien payé. Le juge en première instance a reconnu qu'il y avait un bail verbal. Elle a pu bénéficier de la trêve hivernale.
Non.
Lui, il a fait de la garde à vue parce qu'entre-temps, elle avait jeté toutes ses affaires dans la rue Donc, il a appelé les policiers, etc. Les policiers ont dit, ah, bah, c'est pas un squat, puisqu'elle est là depuis plus de 3 jours. Mmh. Vous l'avez fait rentrer dans les lieux volontairement. Donc, c'est un bail verbal. Ouais. Débrouillez-vous. Non, mais il a fait de la garde à vue, propriétaire de chez lui. Mmh. Elle était avec son petit copain de l'époque, puisqu'en vrai, elle avait un petit copain. Dans son propre appartement à lui, lui qui devait être hébergé chez une amie. Enfin bref, ça a été l'horreur. On a mis 1 an, et par chance, pour expulser cette fille, parce qu'on est allé en appel. Et Dieu merci, en appel, le juge et les juges, pour moi, sont bien meilleurs, même si c'est pas très bien ce que je dis. Mais le juge a reconnu le squat, et tandis qu'en première instance, ils avaient reconnu le bail verbal. Ce qui était une catastrophe, parce que bail verbal, vous bénéficiez de la trêve hivernale. Squat, vous bénéficiez pas de la trêve hivernale.
Notre histoire, là, je reviens à notre auditrice Véronique, je crois, c'est ça?
Oui. Donc Véronique,
elle a des chances de s'en sortir.
Oui, oui, bien sûr. Elle a des chances, à part que. Non, elle a des chances, il n'y a pas de doute.
Mais combien de temps, quoi?
Oui, mais combien de temps,
c'est
ça?
Combien de temps, ça, c'est le problème.
Les juges sont plutôt cléments avec. Enfin, ça rentre dans les.
Non, ça peut aller vite. Le seul souci qui se pose, c'est que, l'engorgement des tribunaux. Donc surtout, une date d'audience en fonction de la place qu'il y a de dispo. Et de deux, est-ce que cette personne est avec ses 4 enfants et est-ce qu'il est dans une situation terrible ou il n'y a pas de situation particulière, auquel cas ça sera une procédure classique, mais comme un squat, on va dire.
Donc la première étape pour Véronique, c'est l'huissier avec le déguerpir.
Sommation de déguerpir, un délai de 15 jours ou un mois en fonction des circonstances. Et ensuite, et parallèlement à ça, prendre une date d'audience au plus vite par son avocat pour que la procédure aille le plus rapidement possible.
C'est SDBV, sommation de barrez-vous.
Oui, c'est ça.
On apprend des choses aujourd'hui.
Je me faisais la même réflexion, cher Guillaume.
Lorraine Derry, une autre question maintenant. Elle est d'Arthur de Paris. Il sous-loue son logement social sans autorisation de son bailleur. Qu'est-ce qu'il risque, Arthur?
Alors, c'est une question qu'on a bien abordée, des sous-locations Airbnb. Enfin, je devine que c'est sur une plateforme Airbnb.
C'est pas précisé, mais ça peut être ça. On peut faire les deux cas, en tout cas.
Alors, on va faire les deux cas, parce que c'est surtout les plateformes type Airbnb. J'y bien, parce que c'est là où il y a le plus, où ça serait... le plus juteux, on va dire.
C'est une location saisonnière,
C'est ça. Donc, en gros, contrairement au secteur privé, c'est que le secteur, on va dire, bailleur social, la sous-location est strictement interdite. Alors que dans le secteur privé, vous pouvez demander l'autorisation de votre bailleur. Donc là, c'est strictement interdit. Qu'est-ce qui risque? Comme pour le secteur privé, c'est résiliation du bail, remboursement des frais civils, ce qui veut dire que tous les revenus qu'il a perçus au titre de son activité sur une plateforme, si le bailleur arrive à mettre la main dessus sur ses décomptes ou s'il les donne spontanément, eh bien, il peut les réclamer en justice. Mais à la différence que par rapport au secteur privé, c'est que la jurisprudence est constante jusqu'à présent, c'est qu'il soustrait les loyers payés au bailleur. Donc, par exemple, si vous avez gagné, j'ai n'importe quoi, 10 000 euros par une activité de sous-location sur une plateforme, mais que vous payez 500 euros par mois à votre bailleur, eh bien, s'il paye bien ses loyers, ça sera déduit du montant des frais civils.
D'accord.
Alors que dans le secteur privé, jusqu'à présent, en tout cas, on s'en moque. C'est indifférent. Parallèlement à ça, s'ajoute une autre amende. C'est une amende civile qui peut aller jusqu'à 9 000 euros, qui ne s'applique que pour les logements sociaux. Mais en pratique, les juges ont un pouvoir d'appréciation. Et s'ils sous-louent son logement d'une manière assez épisodique, ils ne retiennent pas cette sanction. Par contre, si la personne, le locataire le sous-loue d'une manière assez fréquente, par exemple, il y a un arrêt en 2019, je n'ai pas la date exacte, où la Cour d'appel de Paris avait retenu 4 000 euros du fait qu'en fait, il n'habitait jamais dans les lieux et qu'il gagnait à peu près 700 euros par mois, alors que le loyer principal était de 200 euros par mois. Voilà, et ensuite des dommages et intérêts. Mais encore une fois, c'est plutôt retenu dans l'hypothèse où le bailleur social demande des frais civils, mais qu'il n'arrive pas à rapporter la preuve parce qu'un simple constat aujourd'hui n'est plus suffisant. Il faut vraiment rapporter d'une manière assez précise ses décomptes. Et là, donc, si on ne parvient pas, et bien souvent, à titre subsidiaire, l'avocat demande des dommages et intérêts, c'est retenu.
Merci beaucoup, Lorraine Derry.
Avec plaisir.
Merci. Oui, on rappelle, on peut vous solliciter si vous avez un site internet.
Oui, bien sûr, derry-avocat.com. Et donc, je suis avocat en droit immobilier et Airbnb.
Voilà, Paris. Toujours bien consulté, parce que ce genre de galère, mais c'est surréaliste.
Ça vous emmène très loin, surtout si vous partez mal dans les conseils.
C'est des choses auxquelles on ne pense pas, mesdames et messieurs qui nous écoutez, c'est des choses auxquelles on ne pense pas. Soyez extrêmement vigilants. D'ailleurs, tout à l'heure, on va voir des choses sur la copropriété aussi. Il va falloir être extrêmement vigilants. Merci.
Merci à vous.
Merci, André. À bientôt. On se retrouve tout à l'heure.
Voilà, pour la prochaine séquence de Ça vous concerne. À tout de suite.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, l'édito de David Benbassa.
Eh bien, rebonjour à toutes et à tous et merci encore d'être avec nous. Si vous nous prenez en marche, on vous souhaite une très très belle année 2021. Voilà, exit encore une fois 2020. Merci d'être avec nous, toujours avec notre ami David Benbassa qui nous partage chaque mois son édito. Salut David.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va ?
Très bien, très très bien. On est prêt à partir, à démarrer cette année 2021 de la meilleure façon possible.
Mais meilleurs vœux.
Meilleurs vœux à vous tous, meilleurs vœux aux auditeurs.
J'espère que vous allez passer. Alors David, aujourd'hui vous allez nous donner quelques tuyaux, comme vous le faites d'ailleurs chaque mois.
Je sais.
En sachant que vous allez nous donner un petit peu, alors faire un petit bilan peut-être de l'année écoulée, mais surtout les bons plans pour les porteurs de projets sur comment gérer, porter son projet immobilier pour 2021.
Absolument. Alors, effectivement... Premier édito de l'année, je voulais qu'on se mette dans une posture évidemment de vision pour 2021. On va regarder quand même 2020, mais deux secondes, parce que quand même c'est toujours important de savoir d'où on vient. Le marché, finalement, la bonne nouvelle, c'est qu'il ne s'est pas effondré. On va faire quoi ? Environ 950 000 transactions. Il faut quand même se rendre compte que c'est le deuxième meilleur bilan depuis les 20 dernières années. Donc, ça s'est plutôt bien passé, malgré le Covid et la pandémie. Le secteur immobilier a été quand même relativement préservé par rapport aux autres secteurs. Donc, je dirais que c'est une bonne nouvelle. Et moi, je le vois dès maintenant. Les acheteurs, les vendeurs, les candidats locataires sont présents sur les sites de recherche. Je le vois, moi, depuis maintenant un peu plus de 10 jours, depuis la rentrée. Ça se passe plutôt bien et il y a du monde qui recherche. Donc, pour les acheteurs, je pense que malgré tout, ce qui est important, c'est de faire attention à leur budget. Peut-être encore plus maintenant qu'avant, pour deux raisons. Déjà, c'est que ça reste un des critères essentiels dans la recherche immobilière, bien évidemment. Mais il y a quand même des bonnes nouvelles, c'est que les taux d'emprunt n'ont jamais été aussi bas, on peut quand même continuer à le dire, et que les conditions d'octroi de prêt ont quand même été assouplies en fin d'année dernière. Je le répète rapidement, mais c'est le taux d'endettement maximal qui a été porté à 35% au lieu des 33%. Ça, c'est quand même. Ça permet notamment à des candidats de pouvoir accéder à ces emprunts. Le deuxième élément, c'est la durée maximale du prêt qui est remontée à 27 ans au lieu des 25 précédemment.
Et pour, puis... le 9, pour le 9.
Oui. Et puis le dernier élément, c'est l'apport personnel qui est au moins de 10%. Donc ça, c'est un élément important, avec la possibilité de déroger à ces règles pour 20% des dossiers, alors que c'était de 15%. Donc on sait les organismes financiers exigeants. Ça, pas besoin de le prouver. Et ils vont avoir tendance forcément à faire attention et à privilégier les profils avec des revenus stables, mais aussi avec des dossiers avec de l'apport personnel. Et là, mon conseil, c'est peut-être effectivement d'aller chercher, d'aller farfouiller un petit peu dans ses dossiers, l'épargne disponible, aller faire un petit peu les fonds de tiroir, voir ce qu'on peut trouver. Je pense que ce qui est important aussi, et c'est possible, et quand cela est possible, c'est qu'il ne faut pas hésiter à demander à ses proches un petit coup de main. Un élément, les donations aux enfants et aux petits-enfants sont en effet exonérées d'impôts. On n'en parle pas assez. On sait qu'il y a beaucoup d'épargne en France. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Il y a une exonération jusqu'à 100 000 euros par parent et par enfant tous les 15 ans.
Ça coûte zéro.
Ben oui, ça coûte
d'accord,
zéro.
Tous les 15 ans.
Exactement.
Par donc enfant. Ça, ben c'est énorme.
Par parent et par enfant. Donc c'est énorme. Deuxième élément, et on voit que le marché bouge. Je vais donner l'exemple de Nexity qui a monté une cagnotte en fin d'année dernière qui permettait à des prospects acquéreurs dans le neuf, ben finalement d'aller donner un petit peu d'argent sur cette cagnotte, comme les cagnottes Litchi, et le promoteur venait abonder de la somme équivalente. Ça, c'est des éléments extrêmement importants qui permettent de créer un dossier, un apport personnel, et finalement de faciliter l'acquisition. Donc l'épargne, elle est là, il faut l'utiliser. Donc on va parler forcément des primo-accédants. Alors eux pourront toujours bénéficier du prêt à taux zéro. Ça, c'est quand même une excellente nouvelle pour appuyer. Donc le prêt à taux zéro, comme son nom l'indique, bah, c'est vous rembourser les sommes prêtées sans intérêt d'emprunt sur le montant emprunté. Donc trois conditions, c'est effectivement pour l'achat de la résidence principale. Il faut avoir des revenus inférieurs à un certain plafond et qui varient en fonction de la composition du foyer, la zone d'achat et le type de logement, que ce soit neuf ou ancien. Ça, effectivement, et le PTZ est maintenu jusqu'en 2022. Ça va permettre aussi aux primo-accédants d'accéder un petit peu plus facilement à l'acquisition. On va parler des vendeurs. Ils ont deux choix, les vendeurs, finalement. Ils vendent dans l'état ou ils se permettent, finalement, pour peut-être vendre plus vite, de faire des travaux et donc de remettre en état leurs biens. Donc là encore, l'État, au travers de l'ANAH, qui est l'Agence nationale de l'habitat, a mis en place une aide pour les travaux de rénovation énergétique. On connaît bien tout ça, c'est MaPrimeRénov, qui permet de couvrir entre 40 et 80% de vos dépenses. Ce qui est intéressant en 2021, c'est que cette MaPrimeRénov, maintenant, est accessible à tous les propriétaires. Donc je pense qu'il faut en profiter. Le montant varie en fonction du type de travaux, de la localisation et bien évidemment de vos revenus. Et pour bénéficier de l'aide, il est indispensable de faire appel à un professionnel RGE. Qu'est-ce que ça veut dire, RGE ? Reconnu garant de l'environnement. Et sachez qu'il y a eu plus de 120 000 primes qui ont été accordées par l'ANAH en 2020. Donc je pense que c'est un élément extrêmement important. Valoriser votre habitat, en 2020 on l'a vu, il faut encore le faire en 2021 pour vendre un petit peu plus facilement. Un dernier mot pour les investisseurs cette fois-ci. Finalement, on peut avoir le même conseil que pour les acheteurs et que pour les locataires. Finalement, ce qui fait la réussite d'un investissement locatif, c'est quoi ? Ben, c'est finalement sa capacité à attirer les locataires et surtout à les fidéliser. Donc pour ça, ben, on fait comme si on faisait pour nous, c'est-à-dire on s'occupe de l'environnement. Dans sa recherche immobilière, on va vérifier la proximité des transports, des points d'intérêt, des commerces. On va vérifier que la commune est attractive, notamment en termes d'emploi, si c'est une grande commune. Et effectivement, la rentabilité de l'investissement sont des éléments extrêmement importants. Alors, bonne nouvelle pour ce type de client. La loi Pinel, et le donc Pinel pour le neuf et le Deux Normandie pour l'ancien, sont prolongés jusqu'en 2022 dans les mêmes conditions. Donc, je répète rapidement, la réduction d'impôt qui est 12% du montant du bien pour un engagement de 6 ans de location, 18% de réduction pour 9 ans de location et 21% pour 12 ans de location. Alors, pour en bénéficier, c'est assez simple. Il faut par contre faire attention à la localisation, au plafond de ressources du locataire et au plafond de loyer. Tiens, on parle loyer.
On parle loyer, c'est le sujet du jour.
Et on parle encadrement des loyers. Donc je pense que vous en avez parlé, mais le dispositif est déjà en place à Paris et à Lille et il entrera en vigueur courant 2021 dans les 9 communes de pleine commune. Vous connaissez ces communes de pleine commune
ouais, Saint-Denis.
Aubervilliers, Épinay-sur-Seine, Pierrefitte, Sur-Seine, Saint-Denis, Villetaneuse-Estaing, Lille-Saint-Denis, La Courneuve et Saint-Ouen pour ceux qui habitent là-bas.
Ouais,
et sachez qu'en plus, Lyon, Bordeaux, Montpellier et Grenoble réfléchissent activement à la mise en place de cet encadrement des loyers. Souvent la question qu'on nous pose, et on doit vous la poser à chaque fois, mais finalement, toujours la même question, quel est le bon moment ? Est-ce que 2020 va être le bon moment, 2021 va être le bon moment pour acheter, pour louer ?
C'est ce qu'on se dit.
Il n'y a qu'une chose à savoir, finalement, Sylvain, c'est qu'il n'y a pas de mauvais moment. Le bon moment est celui dont on a besoin d'acheter ou de louer quand finalement c'est un moment de vie qui vous appartient, vous avez un changement de situation familiale, un changement de situation professionnelle. Donc si ça vous arrive en 2020, sachez que ce sera le bon moment.
Donc finalement 2021.
2021, j'ai du mal à sortir 2020.
Oui, il faut dire que
elle nous a marqué.
Il y en a beaucoup, mais 2021 enfin en fait à la faveur d'une baisse des taux historiques.
Bien sûr.
Et du fait que effectivement le gouvernement vous incite à le faire, donc effectivement avec beaucoup de scrupules, portez vos projets avec beaucoup d'attention. Merci David.
Merci à vous.
On vous retrouve le mois prochain pour votre édito et on va écouter tout de suite quelqu'un que vous allez appeler pour le Focus Marché.
Absolument.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, Focus Marché de l'Immo par David Benbassa.
Rebonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous, 25e numéro, et oui, 25e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier, si vous nous prenez en cours, on vous souhaite une très très belle année 2021. Comme chaque mois, on a maintenant un focus marché, voilà, depuis cette troisième saison, avec l'ami David Benbassa, où David, vous appelez, voilà, dans chaque territoire, des personnes qui nous donnent un éclairage, et c'est le principe du focus.
Absolument. Et ce mois-ci, pour démarrer l'année, il était pour moi pertinent qu'on puisse encore voyager et aller cette fois-ci en Lorraine. Et on va appeler Monsieur Thierry Bénédic, qui est le président du groupe Bénédic Immobilier. C'est un groupe qui a plus de 14 agences en Lorraine. Il fait l'ensemble des métiers et c'était important de pouvoir l'interroger. Alors, est-ce que Thierry est avec nous ? Thierry ?
Oui, bonjour à tous.
Bonjour Thierry et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'avais une question. Effectivement, on a passé une année 2020 assez compliquée, mais finalement, le secteur immobilier s'en est plutôt bien sorti. Comment en Lorraine et comment le groupe Bénédic appréhende le marché 2021, notamment par le prisme de l'ensemble des aides qui sont à disposition et qui lui sont reconduites pour le marché en 2021 ?
Oui, alors tous mes bons vœux également à tout le monde et à tous les auditeurs. Alors 2020, effectivement, a été une année qui, avec tout ce qu'on a connu, est restée bonne, avec une demande toujours forte de la part des candidats à l'accession. On continue à avoir cette même tendance sur début d'année. On est sur un marché en Lorraine qui est assez, surtout dans les grandes villes, qui est assez sain, où il y a peu de spéculation, des prix qui ont monté à peu près de 10 à 15% sur les 12-18 derniers mois. Et donc une demande qui reste supérieure à l'offre, avec toujours, pour nous dans nos métiers, pas la pression, mais le besoin d'avoir des taux d'intérêt bas, ce qui est encore le cas actuellement et qui permet à une grande partie d'acquéreurs d'être solvables et d'être dans le marché.
Est-ce que le marché en Lorraine, dans certains marchés, arrive à quand même intéresser encore et faire participer les primo-accédants au marché? Est-ce que les aides qui existent aujourd'hui les maintiennent sur le marché, même en Lorraine?
Oui, alors, par exemple, les prêts à taux zéro, ce genre d'aides permettent aux primo. Ce qui permet surtout aux primo d'être sur le marché, ça reste, je l'ai dit juste avant, les taux d'intérêt. Tant que les banques font confiance aux primo et permettent de faire des prêts sur 20, 25 ans à des taux intéressants, ce qui est le cas actuellement, ben ça permet aux primo d'être toujours dans le marché. Sous réserve que le marché ne monte pas indéfiniment, parce qu'à un moment ils en sortiront, mais pour l'instant nous en plus on a une clientèle de frontaliers, de gens qui travaillent au Luxembourg et donc qui ont un pouvoir d'achat un petit peu supérieur qui permet de les laisser tout à fait dans la course à l'accession.
D'accord, très clair. Merci beaucoup Thierry pour cette intervention. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de ventes, beaucoup de transactions pour cette année 2021. Très bientôt.
Merci pour ce focus, David. Merci à Thierry Bénédic, groupe Bénédic, que vous retrouvez bien sûr en Lorraine. Et on se retrouve le mois prochain, David, pour votre nouveau focus
marché. Avec grand plaisir.
On appellera un professionnel en duplex. À tout de suite.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes toujours dans ce 25e numéro, et oui, 25e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. Ça vous concerne. Seconde partie, toujours avec vous, l'ami Vincent.
Oui, et nous accueillons maintenant une nouvelle experte, une nouvelle invitée. Bonjour Noémie Bodoc.
Bonjour, bienvenue. Merci de l'invitation.
Avec plaisir. Vous êtes fondatrice de l'agence immobilière Oscar à Fontenay-sous-Bois, pas loin de Vincennes. La première question pour vous, elle nous vient de Martine de Perpignan. Martine va vendre son logement en copropriété. On lui a dit qu'elle aurait un certain nombre de frais à régler pour organiser cette vente, mais elle ne sait pas lesquels. À quels frais elle peut s'attendre, Martine?
Oui, alors en effet, aujourd'hui, il y a plusieurs frais qui sont applicables aux vendeurs. Il y a trois grandes lignes de frais qui pourraient être applicables. Le premier, ça va être les diagnostics immobiliers. Donc les diagnostics immobiliers, on fera un petit point par la suite de ce qui est obligatoire. Il va y avoir l'état daté et le pré-état daté. Donc ces documents-là, c'est des documents qui sont tous payants. Pour le diagnostic, ça va être un diagnostic qui va être réalisé par un diagnostiqueur professionnel. Celui-ci va aux alentours de 180 euros TTC à 600 euros TTC. Donc ça va dépendre de la typologie du bien et de sa surface. Donc ça, c'est le premier.
Et du nombre de diagnostics aussi, peut-être ?
Oui, du nombre de diagnostics aussi. Bon, après, en général, c'est pratiquement souvent les mêmes diagnostics. Tout dépendra de l'année de construction de l'immeuble. Voilà. Et ensuite, il va y avoir donc le pré-état daté, qui est un document qui relève de la situation financière.
C'est le syndicat qui le fournit, le pré-état daté.
Oui,
il le vend combien?
Alors justement, le pré-état daté, c'est un document qui n'est pas obligatoire par la loi. En fait, si vous voulez, il y a un vide juridique un petit peu à ce sujet, parce que l'état daté, au moment de l'acte authentique, il est obligatoire.
Il est payant.
Il est payant.
Ouais.
Et il est aussi plafonné à 380 euros TTC.
Par la loi.
Par la loi.
Et on ne peut pas facturer plus.
Non, on ne peut
pas facturer. Qui facture? C'est le syndic de copro?
Syndic, oui.
D'accord.
Ça, c'est écrit dans le contrat qu'on a avec le syndic. Hein. C'est plafonné, c'est écrit.
De quoi s'agit-il exactement? Parce qu'on ne sait pas ce que c'est l'état daté comme ça.
Alors, l'état daté, c'est la situation financière de l'immeuble et de l'appartement en question quand c'est en copropriété.
Est-ce qu'il y a des charges qui sont dues? Donc, le bilan, en fait.
Exactement, ouais, les charges, le fonds de travaux.
Est-ce qu'il y a des travaux, par exemple, de prévus, des choses comme ça aussi?
Non, pas non. Les travaux.
Ça, c'est le règlement de copro?
Non, ça, on va le trouver dans les PV d'Assemblée Générale.
Dans les PV d'Assemblée Générale, ça, c'est bien.
Voilà. Donc,
faut dire à nos auditeurs, effectivement, qu'il faut faire hyper attention à ça. Regardez les PV d'Assemblée. Ils les regardent, les clients, les PV d'Assemblée?
En général, oui, ils sont au courant, ils les regardent toujours.
Quand même, hein. C'est important.
Diagnostic et état daté, c'est tout ?
Donc, le troisième,
ouais. Non, alors il y a le pré-état daté. Donc ça, c'est justement la question dont je vais vous répondre. C'est un document qui n'est pas obligatoire aujourd'hui par la loi, mais dans le cadre de la loi Allure, on se doit de le donner au client, de le fournir. En fait, les notaires aujourd'hui nous le demandent. Pourquoi ? Parce que si demain, la personne qui achète dit « Ah bah écoutez, je ne savais pas qu'il y avait tant de charges et qu'on n'a pas fourni le pré-état daté », le client, il va pouvoir se retourner et peut-être annuler la vente s'il n'était pas au courant. Donc ça, c'est un document qui n'est pas... Comme il n'est pas obligatoire, il n'est pas plafonné par la loi. Donc, c'est
Oui. Ça peut coûter cher ?
Oui, ça peut aller jusqu'à 600 euros.
Ah, quand même ?
Oui.
Ah oui.
Et oui. Je ne peux pas refuser, moi, en tant que vendeur de...
Alors, vous pouvez refuser, mais il faudra savoir que l'acquéreur, il pourra se retourner contre vous si jamais y a des non-payés dans la copropriété ou alors s'il n'était pas au courant du montant exact des charges ou ce genre de choses.
Et qu'est-ce que vous préconisez, donc, du coup ? Est-ce qu'il faut prendre le pré-état daté ?
Moi, je préconise de le fournir, oui. Ça permet de savoir... Enfin, pour l'acquéreur, ça va lui donner une information en plus. Après, c'est payant, donc forcément...
Oui, mais est-ce que ce n'est pas un investissement, finalement ? Est-ce que ce n'est pas une façon de sécuriser la vente ?
Si, totalement.
D'accord. Donc, on peut dire à nos auditeurs, s'il vous plaît, si vous en avez la possibilité, prenez, alors que ce n'est pas obligatoire, le pré-état daté. L'état daté, vous êtes d'accord ? C'est obligatoire.
L'état daté, il est obligatoire. Donc, et plafonné, à 380
euros. Donc, c'est à 380 euros. Donc, vaut mieux payer 5 ou 600 euros s'il faut payer. Mais au moins, on est sûr et ça sécurise la vente.
Oui.
Est-ce qu'à la lecture du pré-état daté, on peut renoncer à la vente ?
Oui, de toute façon.
Oui, c'est aussi fait pour connaître...
Oui, bon, alors... On peut renoncer à la vente. Après, une fois la signature du compromis, on a les 10 jours de rétractation qui permettent de sortir de la vente si on a déjà signé le compromis. Mais le pré-état daté, ça va permettre de, si jamais on ne veut pas s'engager, de ne pas vouloir se désengager en plein milieu de des 10 jours de rétractation.
C'est une très bonne chose.
Est-ce qu'il y a d'autres frais ou est-ce que la réponse pour Martine, elle est complète à ce moment-là ?
C'est complet. Déjà, ça représente environ à peu près 1 000 euros au total en tant que vendeur.
Donc en fait, il faut dire à Martine, c'est deux choses. C'est diagnostic, obligatoire, état daté, obligatoire. Et on lui conseille fortement de prendre le pré-état daté.
Alors, on lui conseille, mais il faut savoir que les notaires, aujourd'hui, ils le demandent...
Systématiquement. Ah oui, c'est une très bonne chose.
Deuxième question maintenant, Noémie. André vient d'acheter un appartement au troisième étage d'un immeuble de 5 étages. Problème, il n'a pas accès à l'ascenseur. Le précédent propriétaire n'avait pas participé au financement de cet ascenseur il y a une dizaine d'années. Qu'est-ce qu'il peut faire, André, pour accéder à l'ascenseur maintenant ? Quelles sont ses possibilités ?
Oui, alors c'est une question intéressante parce que, bon, forcément, on ne le voit pas très souvent, mais on le voit quand même quelques fois. Donc nous, on se doit, en tant qu'agent immobilier, de pouvoir répondre à cette question. Pour avoir un accès à l'ascenseur, il va y avoir deux possibilités. La personne peut faire partie d'une petite copropriété. En général, dans les petites copropriétés, les gens se connaissent, sont amenés à discuter, sont amenés à s'inviter l'un chez l'autre, ce genre de choses. Donc on peut discuter un petit peu avec ses voisins, prendre un petit peu la tendance et de voir comment est-ce qu'on peut s'arranger pour avoir cet ascenseur. Ça, c'est possible. Et ensuite, il faudra quand même le présenter en AG et on pourra faire, par exemple, une vente à l'euro symbolique. Si on s'entend bien avec ses voisins, si tout le monde est d'accord. Voilà. Après, il y a le cadre d'une plus grosse copropriété où là, on n'est pas forcément amené à se connaître, à discuter. Voilà. Donc on va soit convoquer une assemblée générale extraordinaire, soit attendre l'assemblée générale annuelle qui a lieu une fois par an. Et dans cette assemblée générale, on va proposer, faire la demande pour l'ascenseur. En fait, il y a un petit calcul que je vais expliquer très rapidement qui est le suivant. On va prendre le coût de l'ascenseur à l'origine. Donc, par exemple, je donne un exemple, l'ascenseur a coûté 100 000 euros à l'origine. À ce coût-là, on va réévaluer le coût de l'ascenseur en fonction d'un indice, d'un sous-indice, qui est l'indice BT48. Donc cet indice-là, en fait, il relève des ascenseurs. Donc c'est un indice du coût de la construction qu'on peut retrouver sur la Fédération nationale du bâtiment. Donc il va permettre une réévaluation de l'ascenseur aujourd'hui. Par exemple, les 100 000 euros de départ vont devenir 150 000 euros à l'heure d'aujourd'hui. Et une fois qu'on aura ce montant-là, on va soustraire la vétusté. Donc la vétusté, c'est environ 2% par an. Tout dépend de l'état de l'ascenseur, mais ça va de 2 à 4% par an. Donc on va soustraire le pourcentage de vétusté. Si par exemple l'ascenseur existe depuis 10 ans, on va appliquer une vétusté de 20%. Et donc là, ça va nous permettre de trouver un montant qui va être le coût, qui sera redispatché en fonction des centièmes de chacun.
Mmh. Et à ce moment-là, il pourra avoir le montant qui peut-être André devra payer.
Exactement.
Pour pouvoir bénéficier de l'ascenseur.
C'est vrai que ça paraît un peu...
Complexe.
Pas complexe, mais c'est un peu chiant, quoi, dans la façon de calculer, parce que c'est vrai que c'est... Mais c'est tellement important.
Mais
que
ça
vous
peut
dites...
monter rapidement, hein, parce
ouais,
que
c'est tellement important qu'en fait, on n'a pas le choix, quoi. C'est vrai que c'est chiant, tu fais tes trucs, etc. Ah, bon, nos auditeurs le savent, mais c'est hyper important, quoi.
Hein, et donc, André peut demander à débloquer l'ascenseur pour lui au troisième étage, mais les autres personnes qui sont au troisième étage, alors eux, ils ont peut-être déjà accès à l'ascenseur.
Alors, tout dépend, il peut y avoir une clé.
Ça dépend ceux qui ont financé ou pas.
Il peut y avoir une clé.
Ah oui, ça arrive souvent. Hein.
Ça veut dire que les mecs qui pourraient habiter au même étage et pas pouvoir accéder à l'ascenseur.
Exactement. Ça dépend s'ils ont financé au départ l'ascenseur. C'est ça. S'ils ont financé au départ l'ascenseur.
Après,
qui a participé.
Non, mais vous imaginez, Guillaume.
Et vous voyez ça beaucoup.
Beaucoup.
Le cas d'André, là, il n'est pas...
Il n'est pas isolé.
C'est anecdotique.
non, pas du tout.
Et vous l'aviez déjà vu, ça, Guillaume, dans les immeubles?
Bah, c'est fou, ça. Moi, je ne l'avais pas trop vu. Mais
vous habitez au troisième étage. Vous avez le droit de prendre l'ascenseur parce que vous avez...
Parce que vous avez financé l'ascenseur.
Une passe, un clé.
Et l'autre, il vient pour descendre...
Il descend à pied.
T'imagines, tu vois ta voisine en bas avec les courses, qui n'a pas la clé d'ascenseur, qui monte à pied. Tu dis, bon, allez, je te prête ma clé.
En général, c'est les ascenseurs des dernières... Enfin, c'est l'ascenseur accès de dernier étage. Les personnes qui sont au premier ou au deuxième n'en ont pas forcément l'usage.
Non, mais c'est fou. Ça existe
surtout dans les immeubles où on a rajouté un ascenseur qui n'existait pas à l'origine.
Ah oui,
et où on a financé. Il y a ceux qui ont financé, pas financé.
Donc, c'est-à-dire beaucoup d'immeubles, hein, parce qu'il y a beaucoup.
Dans les immeubles anciens, type années 30, en Paris, même proche couronne, il y en a beaucoup.
Merci, parce que c'est vraiment une situation qu'on avait rarement traité ici.
Oui, c'est vrai.
D'ailleurs, on devrait faire un spécial pour nos auditeurs un numéro spécial pour les ascenseurs. Oui. On en parle. Non, mais c'est vrai. On en parle. La mobilité verticale.
Non, mais c'est intéressant parce que nous, en tant qu'agent immobilier, on n'est pas forcément tenu de connaître ça, mais c'est important parce que si on a le cas, le client va nous demander tout de suite combien je dois payer pour avoir accès à cet ascenseur.
Et ça peut coûter cher après. Donc, c'est aussi un critère de bien regarder ça. Est-ce que, en fait, finalement, quand j'achète en copro, est-ce que j'ai vraiment accès à l'ascenseur?
Mais c'est bête à dire, mais c'est vrai.
Qu'après, ça peut se chiffrer à plusieurs centaines,
plus
à une dizaine de milliers d'euros.
Quand j'achète en copropriété, c'est pas bête de dire est-ce que j'ai le droit de prendre l'ascenseur.
Tout dépend de l'année de construction, encore une fois.
Surtout que l'ascenseur est le moyen de transport le plus utilisé au monde.
Au monde La mobilité verticale. Avec 3 milliards d'êtres humains tous les jours.
Merci beaucoup, Noémie Bodoc. Votre agence à Fontenay-sous-Bois, Oscar L'Agence, on la retrouve sur internet, www.oscarlagence.com. Et puis bientôt ici, on l'espère. Merci.
C'est l'agence qu'il faut quand vous voulez vendre ou acheter sur la région.
On se retrouve sur le groupe Facebook Le Club des Proprios. Vous posez vos questions à nos experts et puis on revient tout à l'heure.
Merci, l'ami Vincent. On enchaîne.
Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant.
Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir, tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien.
Harold se sent bien ici. Il y a une bonne boulangerie.
C'est bien ici.
Il est à 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail.
C'est bien ici.
Et il adore nager.
C'est bien ici.
C'est sur bienici.com qu'Harold a eu son coup de cœur.
Et c'est bien ici.
Pour une recherche immobilière innovante, par vie de quartier et temps de trajet. Bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement.
And trouble in your brain. Anger you retain. Pressure rocks you like a hurricane. Is it time for you to jump into the next train? Change of hand, make a stand. I can see your heart change. Wake up, no more nap. Your turn is coming up. You feel lazy, but stop the fantasies and bubble dust. If you need a hero, go for it. I will teach you how to feel the things so close to you. Connect it all.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. 25e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. Deuxième partie du Grand Entretien, accompagnée de Roselyne Conan comme grande invitée. Je vous êtes la directrice générale de l'ANIL, voilà, l'Agence nationale pour l'information pour le logement. Extrêmement important. Merci d'être avec nous pour cette deuxième partie d'émission. Toujours accompagnée de l'ami Guillaume. Guillaume, on a un sujet concernant, bien évidemment, les particuliers, les primo-accédants, mais aussi tous ceux qui sont dites des populations fragiles à l'aune de ce qui s'est passé avec la crise sanitaire. Ça a plus de sens que jamais, n'est-ce pas ?
Oui, on va faire un petit point avec vous sur vraiment toutes ces aides, après avoir évoqué les aides générales dans une première partie, toutes ces aides qui sont liées à la crise et qui peuvent nous aider à traverser la crise. Et alors, depuis plusieurs mois, notamment, les associations tirent la sonnette d'alarme. Je m'intéresse aux locataires. Avec la crise, les impayés risqueraient d'exploser. Alors, ce que l'on sait moins, c'est que les collectivités, les départements, les communes peuvent aussi venir en aide, peut-être, aux locataires en difficulté. Quelles aides spécifiques peuvent-ils solliciter, nos locataires qui éprouveraient des difficultés à payer leur loyer aujourd'hui ?
Alors, au-delà des éléments que nous avons évoqués sur les aides au logement, avec
les APL,
le principe, ouais. Voilà, l'APL en temps réel, lorsque le locataire a des difficultés pour payer son loyer. Alors, ce qui est important, c'est que, tout d'abord, il se renseigne en amont, effectivement, pour connaître l'ensemble de ces aides, parce que c'est un petit peu la complexité du sujet. C'est qu'il y a des aides locales, il y a les aides nationales que nous avons évoquées ensemble. Et au niveau local, il y a des fonds de solidarité pour le logement, donc qui sont pilotés en général par les départements, qui visent, lorsque le locataire a un incident de parcours, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à payer son loyer, la possibilité pour lui de bénéficier d'une aide sous forme de prêt ou de subvention ou une combinaison des deux, qui permet de régler sa dette au bailleur. Et le locataire, du coup, ne peut plus être, je dirais, amené à être convoqué devant un tribunal au sujet de ses loyers impayés, puisque sa dette, elle est impayée, menacée d'expulsion. Et ce qui permet, du coup, de rembourser de manière étalée, ou si c'est une forme de subvention, il n'y a pas de remboursement à faire, d'être à jour de son loyer, de pouvoir reprendre le paiement courant de son loyer en ayant éventuellement sollicité une aide au logement qu'il n'avait pas sollicité, par exemple.
Et ça fonctionne simplement, ces fonds-là. On peut les solliciter facilement. On s'adresse peut-être à la NIL. C'est vous qui faites l'intermédiaire. Enfin,
justement, là, je voulais, pour compléter la question, ce qu'a fait avec son logement, par exemple.
Alors ça, je le verrai peut-être dans un deuxième temps, oui. Mais c'est vrai que c'est simple dans la mesure où vous pouvez saisir le Fonds de solidarité logement. Nous, on vous invite à passer par un travailleur social qui peut vous accompagner. Qui peut vous accompagner. Vous pouvez alors peut-être en amont aussi rencontrer votre agence départementale d'information sur le logement, d'accord, qui fera aussi un bilan de votre situation, qui va vérifier quel lien juridique vous avez avec votre propriétaire. Est-ce que vous êtes en location vide, meublée ? Est-ce que vous avez mobilisé toutes les aides qui étaient existantes ? Est-ce que vous avez d'autres dettes ? Puisqu'il y a le sujet du loyer, mais il y a d'autres sujets. C'est-à-dire que lorsqu'on a un impayé, potentiellement, on peut aussi avoir des dettes de crédit à la consommation. Donc peut-être que c'est une vue d'ensemble qu'il faut avoir. Et pour régler justement cette situation, faire déjà un premier état des lieux est une bonne
chose. Vous avez absolument raison, parce que souvent, l'indicateur de non-paiement des loyers a un sous-jacent. C'est une défaillance de paiement pour des choses qui n'étaient pas prioritaires au départ. Parce qu'en général, les gens font très attention au paiement de leur loyer.
Oui, ils priorisent le loyer.
Et donc, du coup, quand ils commencent à ne plus payer leur loyer, c'est que leur situation... est-ce que ça, vous l'observez, ça, que leur situation s'aggrave dans ces cas-là ? Est-ce que c'est une donnée... est-ce que quand on commence à avoir une fragilité de paiement des loyers, ça révèle une situation assez précaire sur le plan financier ?
Alors, comme vous le disiez, le loyer est souvent priorisé dans les différentes échéances à payer. Et c'est vrai que lorsqu'il y a un impayé de loyer, c'est que vraiment les locataires sont en grande difficulté et sont vraiment contraints de ne... Enfin, sont plus en capacité du tout de le faire. Voilà. On exclut les quelques pourcentages locataires de mauvaise foi, hein, mais comme il y en a partout. En dehors de ça, on est vraiment sur des accidents de parcours.
Mais des accidents de parcours qui sont liés essentiellement par la perte de l'emploi.
Alors, ça peut être la perte de l'emploi, ça peut être une séparation, d'accord, ça peut être un décès.
Si on devait hiérarchiser, la première cause, est-ce que c'est la perte de l'emploi ?
C'est principe aujourd'hui, oui.
Oui, parce que voilà, vous voyez,
parce que
oui, à quoi je fais allusion, je fais allusion au chômage de masse qui s'est annoncé et qui s'annonce de façon dramatique dans quelques semaines, dans quelques mois, à cause de l'arrêt des aides de l'État. Effectivement, ça peut être. Alors, Action Logement a mis en dispositif d'aide forfaitaire, je crois, de 140 euros.
C'est 150 euros fois 2.
Fois 2 pour des ménages modestes.
Voilà, mais qui a été augmenté, en fait, qui a le public a été élargi.
Oui.
Et les sommes ont été également augmentées.
Donc on peut solliciter Action Logement. Action Logement, c'est
si
l'ex 1%
salarié, logement. Voilà. Si vous êtes salarié du secteur privé, l'extension des aides, c'est aussi vise aussi les personnes qui ont perdu leur emploi, les demandeurs d'emploi, les personnes qui auraient perdu leur emploi depuis aussi leur première demande. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont fait leur demande, ils étaient en difficulté. Et entre-temps, ils ont perdu leur emploi. Donc il peut y avoir une sollicitation complémentaire, justement. Donc on est sur les charges de logement. C'est-à-dire que c'est pas que le loyer. Ouais. Oui, c'est aussi les accédants à la propriété.
Je trouve ça
intéressant.
Je trouve ça bien qu'ils aient payé.
Jusqu'à 900 euros. Cette fois.
Ah oui, alors, quand même.
Les départements, Action Logement, et moi, les banques, alors. Comment elles se comportent en cette situation de crise, notamment les petits propriétaires qui redument.
Comment
à,
les banques.
Est-ce qu'il y a des conditions qu'elles assouplissent
voilà, dire d'une banque qu'elle est arrangeante, c'est presque un contresens.
Mais je peux avoir du mal à rembourser mes emprunts.
On va quand même poser la question, est-ce que les banques sont arrangeantes?
Moi, je dirais globalement, elles jouent le jeu.
Ah ouais.
C'est-à-dire que les accédants à la propriété qui sont confrontés à effectivement une baisse de ressources.
Pardonnez-moi, Roselyne, pardonnez-moi, je vais préciser la question. Défaut de paiement, par exemple, au niveau.
Je pense qu'il faut aller voir la banque avant d'être en défaut de paiement. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des choses à faire avant d'être en défaut de paiement. C'est-à-dire
que contractuellement,
on peut renégocier un taux.
Taux d'intérêt. Renégocier un taux, premier point. Deuxième chose, on a une suspension de crédit.
On peut rééchelonner.
De 6 mois. On peut proroger la mais imaginons qu'on soit dans une situation qui fait que est-ce que la banque de toute façon au bout d'un certain temps se résout à finalement saisir et à prononcer la déchéance du prêt.
Alors que la défaillance sera trop importante,
oui,
que l'arrangement amiable ne pourra pas être négocié. C'est pour ça que moi
que
je conseille,
savoir,
c'est
oui,
l'amont.
Quel conseil on peut donner en amont justement? Quelles sont les solutions? Qu'est-ce que je vais dire à mon banquier pour prévenir le risque?
Comment on fait?
Est-ce qu'il y a des rééchelonnements voilà.
Alors déjà, reprendre son contrat de prêt. Ouais. Alors si c'est compliqué à lire, et là je le conçois, c'est assez long un contrat de prêt, vous allez voir votre ADIL, elle peut vous accompagner dans la lecture de ce contrat de prêt. Il existe la possibilité, dans certains contrats, de rééchelonner, de décaler. C'est-à-dire que pendant une certaine période, on décale les échéances.
Des mensualités.
Une partie, peut-être 50% des échéances. Voilà, en fonction des contrats, il y a cette possibilité-là. Mmh. Vous pouvez négocier le taux à la baisse. Parce que aujourd'hui, les taux font qu'ils sont très bas et vous avez peut-être emprunté il y a peut-être 8 ans où les taux étaient un peu plus élevés, donc il est peut-être encore possible.
C'est peut-être justement un peu plus compliqué ça pour.
Oui, mais il ne faut pas être en impayé. Mais, c'est-à-dire que quand on sent que la difficulté approche, c'est là où il faut commencer la négociation.
Okay.
Et après, on peut aussi rééchelonner. C'est-à-dire qu'il y restait par exemple 8 ans remboursés, du coup, on va l'étaler sur 10 ou 12 ans.
Et ça, c'est possible.
Ça, c'est possible.
D'accord. Donc si on sent les difficultés poindre, il faut.
Augmenter
la palette de possibilités.
Voilà, il faut tout de suite se poser la question, se faire accompagner.
Globalement, quand vous, c'est parce que vous faites aussi l'interface avec différents, puis pour vous les rencontrer, ils sont quand même globalement arrangeants.
Nous, franchement, on n'a pas de problématique majeure sur les accédants à la propriété qui n'arrivent pas à renégocier avec leur établissement financier.
D'accord.
Voilà. Est-ce qu'on a une dernière question, Guillaume?
Oui, un petit point. Alors là, on est un petit peu, c'est pas de l'immobilier directement, mais quand même, je vais noter ce point-là. Il y a un coup de pouce qui est peu connu aussi. C'est pour les salariés qui cotisent à la GIRC-ARRCO. Ils peuvent solliciter une aide spécifique de leur caisse.
C'est possible?
C'est
alors,
ça. Et ça, je sais pas si on connaît bien.
Alors, cette disposition a été mise en place avec la crise, bien évidemment. La GIRC-ARRCO a souhaité soutenir les salariés qui cotisent à cette caisse de retraite. Alors, à ce jour, le dispositif avait été annoncé s'arrêtant au 31 décembre 2020.
Ah.
Donc, aujourd'hui, on attend de savoir s'il y a prorogation ou pas.
Pour l'instant, la question
demeure. Ça permettait d'avoir combien?
Mais il y avait une aide de 1 500 euros.
D'accord.
Par an.
Une aide forfaitaire.
C'est pas neutre du tout Bien entendu. Merci beaucoup, Roselyne Conan, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directrice de l'Agence nationale pour l'information pour le logement, où on retrouve d'ailleurs tous les travaux que vous menez actuellement, toutes les actualités. Allez sur le site internet. Vous êtes là aussi pour avoir ce rôle d'interface et de conseil sur les orientations, et on en a bien besoin. Je rappelle que c'est gratuit. Hein. On peut accéder au service de la NIL gratuitement.
Voilà, les agences départementales, vous les trouvez sur le site de la NIL. Vous avez une carte interactive, vous cliquez et vous avez les coordonnées.
Voilà, anil.org, voilà, tout simplement. Merci,
merci
et
beaucoup.
À très vite, Roselyne.
Au revoir.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, droit dans l'immo, avec Stéphane Moquet.
Bien, rebonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes dans ce 25e numéro, et oui, 25e numéro du grand rendez-vous de l'immobilier. Et une fois n'est pas coutume, de retour, notre chronique tant attendue, l'édito, la séquence de « Droit dans l'immo ». Accompagné de Stéphane Moquet. Comment ça va, Stéphane ?
Ça va très bien. Bonjour Sylvain et bonjour Guillaume.
Alors
bonjour.
Stéphane, vous êtes le directeur général du réseau Orpi, tout le monde le sait. Je vous souhaite une très très belle année 2021. Comment ça s'est passé pour vous ?
L'année 2020 ?
Alors comment, voilà.
D'abord parler de l'année 2020.
Voilà, le réveillon, le début d'année.
Sylvain, je vous revois dans un an pour vous parler de l'année 2021. Mais l'année 2020, je crois qu'on est un secteur d'activité où il ne faut quand même pas se plaindre. Quand on voit aujourd'hui les bilans des différentes industries, hein, que ce soit celle du tourisme, que ce soit celle de l'automobile, du cinéma, que ce soit celle de l'aérien, quand on voit des chiffres à moins 25, moins 30, moins 70% d'activité. Quand on voit l'immobilier à moins 10%, on aura des chiffres définitifs probablement à la fin du mois par la Chambre des notaires. On peut se dire quand même qu'on est un secteur privilégié. Et c'est vrai que je me souviens en avril sur votre antenne où j'avais dit qu'on avait des raisons d'espérer un rebond en sortie de premier confinement. Ben, ça s'est révélé exact. Donc on a une année qui s'est révélée finalement très bonne. Il y a toujours une forte attractivité pour l'immobilier. Les taux étant restés très bas, l'année, on n'a pas beaucoup à se plaindre sur l'année 2020.
Alors, comme on le dit dans votre séquence droit dans l'immo, on va aller droit au sujet. Trois points. Un chômage de masse qui s'annonce avec de grosses défaillances. Question, Stéphane Moquet, vous qui dirigez le plus gros réseau français, est-ce que l'impact se fera inévitablement, nonobstant le fait qu'effectivement, il y a des taux bas, mais que ça va impacter la demande immobilière. Comment vous voyez le premier trimestre, le premier semestre, en termes de prix pour les porteurs de projets dans leurs orientations ?
Alors, effectivement, de la crise sanitaire, on passe vers une crise sociale et on voit des plans sociaux de grandes entreprises. Et ça touche le moral des Français. C'est-à-dire que le moral, c'est quand même un indice de confiance. La confiance, et c'est ce qui favorise la consommation. Et on voit bien, quand on interroge les Français, qu'on leur demande s'ils pensent que la situation sociale va bien, ils vous disent non. Si on leur demande si ça va pour eux, ils vous disent ça va pas trop mal. Mais quand on est dans une situation comme ça, on est prudent, on épargne. Et puis, un investissement aussi lourd que celui de l'immobilier, on peut être amené à le reporter. Donc on voit bien qu'il y a quand même moins d'acheteurs en ce moment. Ceci étant, on est dans un marché qui, depuis de nombreuses années, est déséquilibré, où il y a une offre qui est très rare, où il y a beaucoup d'acheteurs. Donc même quand il y en a un peu moins, il en reste quand même suffisamment pour soutenir le marché. Moi, je pense qu'on va vivre deux périodes. Je ne voudrais pas mettre de calendrier entre premier et deuxième semestre. Je pense qu'il faut être prudent. Hein. Aujourd'hui, on n'est même pas sûr qu'il n'y ait pas un troisième
Le vaccin,
voilà.
Ça,
on attend d'ailleurs. Oui,
le fameux vaccin.
C'est
le vaccin que tout le monde cherche, mais dont personne ne veut.
Absolument.
Ça, c'est quand même génial.
Ce que vous dites est terriblement vrai. Voilà, terriblement vrai. Alors, vous savez, il y a des petits pays comme Israël, par exemple, qui a vacciné 2 millions de personnes. En France, il y a 70 millions de personnes, on a su vacciner 200 000 personnes.
Donc je pense qu'on aura deux périodes, c'est-à-dire que tant qu'on est dans une situation où on ne peut pas reprendre une vie normale, où les industries ne redémarrent pas complètement et pleinement, hein, ces fameux commerces non essentiels, et tant qu'on n'a pas une sécurisation liée à cette maladie, donc ça passera par la vaccination,
clairement.
Bon, on va avoir un marché qui va être, à mon avis, un peu difficile. Dès qu'on va pouvoir reprendre une vie normale, je pense que d'abord les Français auront soif de revivre normalement, de reconsommer. Et l'immobilier, quand même, il y a des éléments structurels qui vont les inciter à repartir sur le marché. Les taux restent de toute façon très bas. Ensuite, on a quand même toujours ce désir d'accéder à la propriété. Alors elles seront peut-être pas évidentes pour tous, cher Guillaume. C'est vrai que dans des secteurs d'ouvriers, je pense, c'est plus compliqué, mais il y a quand même un désir d'accéder à la propriété. Il y a aujourd'hui le télétravail qui peut amener certains cadres à pouvoir se permettre maintenant, puisqu'on va pouvoir déconnecter le lieu où on travaille, de lieu où on vit en étant
plus éloigné. Oui, sauf que le télétravail, comme on en parlait tout à l'heure en antenne, ne touche pas...
Ça touche plutôt les cadres.
C'est sûr qu'un maçon aura du mal à...
Deuxième point, Stéphane Moquet, les primo-accédants seront-ils impactés par cette crise qui s'annonce dans l'immobilier?
Les primo-accédants, c'est ceux qui sont souvent les plus touchés. D'abord parce que leurs niveaux de revenus sont évidemment plus faibles. Ils démarrent dans la vie. Ça dépend des conditions d'octroi bancaire. Je crois que c'est la banque qui a la clé. Le fait que le gouvernement ait autorisé d'allonger la durée et d'augmenter le pourcentage de...
C'est un bon signal.
C'est un excellent signal. Parce que c'est une population qu'on exclut très vite. Hein, quand les prix montent un peu ou quand les taux augmentent, c'est une population qui souffre plus pour accéder à la propriété. Et donc, si vraiment les banques mettent en place ces consignes-là, ça devrait pouvoir les maintenir dans le marché.
Quand faut-il qu'ils aient accès à l'emploi facilement cette année? On verra.
Alors, c'est
le primo-accédant.
Je pense qu'on ne mesure pas évidemment la crise sociale, parce qu'on parle de grandes industries, alors on les identifie très vite. Après, il y a tout ce qui sont... les sous-traitants, tout ce qui est l'emploi périphérique, qui est la conséquence d'un marché dont on n'en mesure pas encore complètement. Je pense que la clé, on l'aura quand on sortira de cette crise, c'est évident.
Voilà. Dernière question, droit dans l'IMO, toujours autant valable de porter un projet immobilier maintenant?
Vous savez...
Est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs, est-ce qu'il y a un effet, peut-être un effet d'aubaine, en disant c'est le moment de négocier, c'est le moment d'y aller? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous écoutent, qui ont envie ou qui se posent des questions sur la pertinence?
D'ailleurs, c'est les vendeurs qui sont en position de force, si je vous entends.
Bien sûr, parce que... Alors, tous les marchés ne se ressemblent pas, mais dans des marchés tendus, il y en a de nombreux en France, dans toutes les grandes agglomérations. C'est le vendeur qui a quand même la clé. Aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup de moyens d'investir. Donc, si vous voulez vous sécuriser pour l'avenir... Être propriétaire de son bien, c'est sécuriser à moyen terme. C'est aussi préparer sa retraite. Alors, ça parle peut-être pas à des jeunes de 25 ou 30 ans. Mais enfin, de toute façon, il est toujours préférable de mettre de l'argent dans un crédit immobilier d'un bien qui va vous appartenir ou qui vous permettra d'avoir un apport personnel de plus en plus important que de payer un loyer. C'est évident. Donc, il n'y a pas beaucoup de solutions pour investir en France. Et c'est pour ça qu'on a aussi un marché d'investisseurs locatifs qui est assez important. Donc oui, ça reste toujours, évidemment, un intérêt, encore plus quand les taux sont si bas.
C'est sûr que payer un loyer à fonds perdu, si on a la possibilité de payer l'équivalent, voire peut-être un tout petit peu plus, mais pour soi, c'est toujours un pari gagnant sur l'avenir.
C'est toujours un pari gagnant, exactement.
Voilà, ça nous a fait très plaisir de vous revoir, Stéphane Moquet, pour Droit dans l'Immo. Vous êtes avec nous pour le prochain numéro de février.
Eh bien,
voilà, Droit dans l'Immo, les questions qui vous donnent un peu de hauteur aussi sur la vue de vos projets immobiliers avec Stéphane Moquet. Je rappelle que vous êtes le directeur général du premier réseau immobilier français, c'est-à-dire Orpi, que vous retrouverez sur le site internet. On enchaîne tout de suite avec la suite de nos programmes.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, le conseil immo de l'UFC Que Choisir.
Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Encore une fois, on vous souhaite une très très bonne année. Si vous nous prenez en cours de route, là, voilà, on s'était dit avec l'ami Guillaume, le conseil de l'UFC Que Choisir, toujours avisé pour protéger, si tant soit peu qu'il le fasse, qu'on le fasse aussi, protéger les consommateurs chaque mois. C'est l'heure donc du conseil, n'est-ce pas, mon cher Guillaume?
Exactement, Sylvain. Aujourd'hui, donc, on accueille une nouvelle fois Gwenaëlle Lejeune, juriste à l'UFC Que Choisir. Bonjour, Gwenaëlle.
Bonjour, Gwenaëlle.
Enchantée, bonne année.
Bonne année à vous.
Aujourd'hui, vous allez nous parler alors des retraits et gonflements de sol argileux. Autrement dit, les fissures dans le bâti après les périodes de sécheresse. Alors là, pour le coup, c'est pas du tout glamour, je vous l'accorde.
Voilà.
Mais alors, figurez-vous qu'en préparant cette émission, vous m'avez dit que c'est la première cause d'indemnisation en dommage ouvrage pour les maisons individuelles. Donc, sujet...
Le retrait et gonflement, c'est des chocs thermiques. C'est quoi, des chocs?
RGA.
Chocs thermiques.
Alors, les retraits et gonflements de sol argileux, en fait, c'est lorsque vous avez sous les maisons du sol argileux dans le sous-sol. Et lorsque vous avez des épisodes de sécheresse et des épisodes de pluvieux, de réhydratation, vous avez des mouvements différentiels du sol. Et puis, le bâti au-dessus ne suit pas nécessairement. Et vous avez
première cause de dommage ouvrage.
Voilà, pour les maisons individuelles, en DO, c'est la première cause d'indemnisation de sinistre. Donc, c'est quand même un problème qui est considéré comme majeur.
Oui.
Alors, on vous écoute, alors.
Pourquoi les maisons individuelles,
pourquoi,
peut-être
et quel conseil donner?
Et pourquoi pas autre chose? Tout simplement parce que les maisons individuelles, en fait, ont souvent des fondations qui sont beaucoup moins profondes et qui, du coup, ne se révéleront pas forcément adaptées à la présence d'argile dans le sous-sol. C'est une difficulté majeure. Et bon, les fissurations sur le bâti, vous en voyez peut-être, hein, parce qu'à la télévision, on voit très souvent, depuis quelques années, suite aux épisodes de sécheresse, ce type d'image, hein, avec énormément de fissurations. Alors, vous dites, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a découvert qu'il y avait des fissures sur sa façade? Alors, la réponse est assez simple, en fait. Il faut d'abord faire une déclaration préventive auprès de son assureur, le plus rapidement possible, dès que vous constatez qu'il y a des fissures. Alors, quel assureur? La multirisque habitation. Et si jamais vous avez la chance d'avoir une maison qui a moins de 10 ans et que vous aviez bien souscrit la dommage
ouvrage... Ou la garantie décennale, non? C'est pareil.
La garantie décennale, c'est la garantie juridique. D'accord. Après la garantie juridique, vous avez la garantie des constructeurs et la dommage ouvrage en parallèle. Ce sont des régimes un petit peu différents, mais ça fait partie de la décennale.
Et si elle a plus de 10 ans, c'est quoi?
Si elle a plus de 10 ans, malheureusement, la dommage ouvrage, vous pourrez l'oublier. Et également la responsabilité éventuelle des constructeurs, on oublie. Et ça sera vraiment seulement la multirisque habitation. En tout cas, si vous voyez des fissures, il faut penser à la multirisque habitation, éventuellement la dommage ouvrage. Contactez la mairie très rapidement. Pourquoi? Tout simplement pour qu'elle se rapproche de la préfecture et qu'elle puisse solliciter la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
Non.
Et si? Parce que lorsque vous avez toute une zone avec les fissures qui atteignent tout le bâti, vous pouvez avoir la déclaration d'état de catastrophe naturelle.
Généralement, on n'est pas les seuls concernés dans le quartier.
C'est fort possible, oui. Il y a quand même des zones qui sont plus ou moins étendues. Et à partir de là, lorsque vous avez un arrêté qui est publié, vous avez 10 jours pour redéclarer le sinistre.
Gwenaëlle, oui. Quand j'ai construit la maison, la maison, il y a un sondage du sol?
Pas forcément.
D'accord.
C'était pas nécessairement obligatoire. Je vais aborder cette question.
Celui qui fait bien son boulot, normalement, aurait dû identifier qu'il y avait un sol argileux.
Ça aurait pu être une bonne chose à faire. Néanmoins, vous reprenez l'existant lorsque vous achetez un bâtiment. D'accord. Et vous pouvez avoir de mauvaises surprises et apprendre que finalement, il y avait
mais dans ce sous-sol. Pas forcément quelqu'un de mauvais qui travaille pas bien. C'est quelqu'un qui, il y a un contexte qui fait que c'est pas allé à ce
point-là. Il y a aussi l'idée que parfois, le constructeur, c'est vous. Et vous ne maîtrisez pas forcément les règles constructives. Il y a aussi cette question-là. Donc vous pouvez avoir des gens qui n'ont pas pensé qu'il pouvait y avoir de l'argile dans le sous-sol et qui n'auront pas fait des fondations assez profondes, que ce soit des professionnels ou alors des maîtres d'ouvrage amateurs qui auront géré eux-mêmes les travaux.
Ok, alors qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive?
Donc là, je vous l'ai dit, donc vous avez d'abord la déclaration préventive, se rapprocher de la mairie et ensuite, lorsqu'il y a un arrêté de reconnaissant l'état de catastrophe naturelle, redéclarer rapidement auprès de l'assurance dans les 10 jours à nouveau le sinistre, avec tous les documents, vous prenez des photos, ce genre de choses.
Et on le fait.
L'idée, c'est que dans ces cas-là, vous avez ensuite un expert qui va être désigné pour pouvoir analyser la situation et chiffrer le préjudice. Après, toute la difficulté, c'est qu'il peut y avoir éventuellement des discussions. Donc déjà, essayez d'être dans les clous, ne serait-ce que pour les déclarations. Ça peut vous faire gagner beaucoup de temps et vous éviter des déconvenues. Par contre, si vous n'avez pas d'arrêté reconnaissant l'état de catastrophe naturelle, là, ça peut être plus délicat parce que ça va être véritablement un bras de fer avec votre assureur multirisque habitation. Et puis, vous pouvez avoir l'application des clauses. Dites-vous que déjà, s'il y a un état de catastrophe naturelle qui est reconnu, vous aurez toujours, de toute manière, même en étant assuré, même en ayant cet arrêté qui vous aide, la difficulté d'avoir contre vous la franchise. Vous avez déjà pour 1 500 euros un petit peu plus dans la vue. Ça peut même augmenter selon la situation, si ça s'est déjà produit dans la zone, s'il n'y a pas de plan de prévention des risques alors qu'on savait qu'il y avait de l'argile, ce genre de choses. Donc ça peut chiffrer et il faut vraiment mettre toutes les cartes de son côté dans ces cas-là. Mais ça vaut pour le coup pour ce qui est déjà bâti avec les difficultés qui peuvent exister. Donc, ce qu'il faut aussi se poser comme question,
donc,
c'est pour le futur, pour les constructions futures.
S'il n'y a pas d'arrêté,
l'assureur.
Mais l'assureur prend en charge ce cas-là?
Assureur multirisque habitation.
Et ils vont le prendre en charge, ce truc-là?
Ça va être difficile. Il y a le jeu des clauses, donc ça peut être très compliqué. Ouais. Après, c'est la raison pour laquelle il faut se battre et il ne faut pas se couper sur les déclarations.
Voilà. Et après, s'ils ne le prennent pas en charge? C'est pour la pomme du gars.
Ça peut être difficile, oui.
Ou alors, il faut faire comprendre à la mairie qu'on va prendre un arrêté, justement.
Par contre, l'arrêté...
Il faut insister lourdement. Mais dites-vous que si vous êtes nombreux dans la zone...
Par contre, l'arrêté justifie la saisine
de la... Dites-vous que si vous êtes nombreux dans la zone à être affectés par cette difficulté, vous serez plus nombreux à vous rapprocher de la mairie pour insister lourdement.
On n'est jamais un cas isolé dans ce cas-là.
Voilà. Et puis dites-vous que la mairie d'elle-même peut aussi faire cette démarche toute seule si toute la zone est atteinte. Ça semble assez logique. Alors après, comme je vous l'ai dit, c'est un problème de règles constructives finalement. Avant, on ne le savait peut-être pas forcément. Maintenant, on le sait. En tout cas, il faut avoir des fondations plus profondes. Il faut renforcer les murs.
C'est clair.
Ce n'est pas la dalle de plein pied. Il faut essayer d'avoir un vide sanitaire ou un sous-sol tout du long. Ce genre de choses. Surveiller les variations d'humidité. Il y a ça. Se pose néanmoins la question de la composition du sol. Et comment le savoir? Alors, il y a des réflexes assez simples, en fait. Déjà, vous pouvez vous rapprocher de la mairie. Vous pourrez aussi savoir s'il y a un plan de prévention des risques où on vous dirait de certaines manières de construire. Ça peut être toujours utile. Et sinon, vous avez une carte sur le site georisque.gouv.fr. Mmh. Après, ça rend un petit peu paranoïaque, ce type de site. Hein, je vous le dis tout de suite, parce que vous voyez que vous avez du radon dans la zone, vous avez risque sismique. Ou je ne sais quoi. Mais c'est quand même utile et ça vous indique s'il y a ce type de risque.
D'accord.
Plus, la législation a évolué récemment.
Merci beaucoup, Gwenaëlle Lejeune. Donc, pour synthétiser, la chose à faire, c'est urgemment saisir votre multirisque habitation. Si vous avez la chance d'être dans les 10 années garanties décennales, dommage ouvrage, et puis essayer d'obtenir, effectivement, s'il y a un sol argileux avec ce retrait et gonflement de ces sols, si vous avez d'autres personnes à côté, de former éventuellement une action collective vis-à-vis de la mairie et de la préfecture pour obtenir un arrêté de catastrophe naturelle. Parce qu'effectivement, du coup, on peut saisir l'assurance et être obligé de faire face à son obligation.
Et sinon, bien se renseigner avant, si on veut construire soi-même, sur la qualité des sols, etc., sur les sites.
Il y a également des études qui ont été mises en place.
Normalement, les constructeurs sont censés quand même, les constructeurs professionnels sont censés quand même faire un sondage des sols. Ce qui est le cas des promoteurs. Lorsqu'il y a des opérations. Mais effectivement, toujours vérifier, c'est une chose importante.
Et merci. Depuis le 1er octobre, c'est obligatoire.
Et c'est obligatoire depuis le 1er octobre 2020.
Dans certaines conditions.
Merci Gwenaëlle Lejeune.
Merci
je
à vous.
Rappelle. Juriste à l'UFC, que choisir? On vous retrouve le mois prochain.
D'accord.
À tout de suite.
Au revoir.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce grand rendez-vous de l'immobilier 2021. On vous souhaite une très très belle année si vous nous prenez en cours d'émission. Voilà, allez hop, au revoir 2020. Mmh. Vive 2021 avec beaucoup d'espoir en tout cas et on espère que vous allez bien. Merci en tout cas de nous suivre, c'est le 25e numéro. Vincent, c'est notre troisième et dernière séquence de Ça vous concerne, la séquence préférée de nos auditeurs.
Ouais, et c'est une première pour notre expert maintenant sur le plateau, c'est Sylvain Plantelin. Bonjour Sylvain, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes notaire à Saint-Germain-en-Laye. Soyez bienvenue, on a deux questions pour vous, posée sur le groupe Facebook Le Club des Proprios par les auditeurs du Grand Rendez-vous. Une première question nous est posée par un couple de Bretons, Brigitte et Bernard. Ils sont paxés, ils ont le projet d'acquérir une grande maison assez cossue, c'est ce qu'ils nous disent. Nos futurs propriétaires se demandent si le fait d'acheter via une SCI leur permettra plus tard de réduire les droits de transmission à leurs enfants, leurs droits de succession. Est-ce que c'est possible? Comment ça se passe, ça?
Alors, qu'on achète sous forme de SCI ou qu'on achète en direct, on va dire, en indivision, les taxes sont les mêmes sur le principe. Les taxes, elles portent sur le montant, la valorisation de ce qui est transmis. Si on transmet des parts de SCI, on va payer des taxes sur la valorisation des parts de SCI. Si on a un bien immobilier en direct, eh bien, on va transmettre le bien immobilier et on paiera des taxes sur la valorisation du bien immobilier lui-même.
Mmh. Donc c'est une fausse croyance, ça, qu'il y a un avantage de la SCI fiscale.
Alors,
il y a d'autres avantages de la SCI, peut-être.
Il y a des avantages. Alors, il y a des avantages de la SCI, effectivement, mais qui n'est pas fiscal réellement. La SCI a l'avantage de pouvoir acheter donc, entre les parents, et avec les enfants. On peut faire exactement la même chose en indivision. C'est-à-dire que les parents peuvent acheter et, dans un deuxième temps, donner à leurs enfants la nue propriété des biens en question. À ce moment-là, en donnant la nue propriété des biens à leurs enfants, ils transfèrent le bien à leur décès.
D'accord. Mais qu'est-ce que, juste en un mot, alors c'est difficile, hein, mais quels avantages pourrait avoir ce couple à acheter en SCI au-delà de la fiscalité?
Alors, il peut y avoir un avantage si on crée une SCI, par exemple, qui a un petit capital. Dans ce cas, on peut remettre aux enfants, par exemple, 90% des parts de cette SCI, les parents n'en ont que 10%. Et la SCI, c'est elle qui va emprunter, par exemple, pour acheter. Mmh. Et les enfants vont utiliser la capacité d'endettement des parents pour acheter le bien. Donc, ils auront, par exemple, 90% des parts, les enfants, les parents, 10%. Et de ce fait, le bien appartient à l'indivision. Mais ce n'est pas tout, parce que le bien, il appartiendra bien à la société, mais il faudra les transmettre, ces parts. Si l'on ne donne pas aux enfants, il n'y aura jamais de transmission. Et là, la transmission, elle va porter sur la valeur des parts qui sont bien inférieures à la valeur du bien immobilier en direct. Mmh. Donc ça permet de diminuer la valorisation c'est de ce clair. Qui est donné.
Nouvelle question, oui. Vincent.
De Laurent, près de Poitiers maintenant. Il est propriétaire d'un terrain de 1500 m² sur lequel il a construit sa maison. Il veut vendre une partie de ce terrain de manière constructible. Quelle formalité est-ce qu'il doit remplir et à qui il doit s'adresser?
Ça arrive souvent, ça.
Aujourd'hui, oui, oui. Effectivement.
Les gens remembrent leur terrain et essayent de vendre...
Oui, surtout avec la valorisation aujourd'hui des biens immobiliers. Donc, on va avoir tendance à pouvoir diviser un terrain. Mais alors, pour diviser un terrain, il faut effectivement avoir des autorisations pour ça, le cas échéant. Et en premier lieu, faire passer un géomètre pour délimiter la partie de ce terrain. Mais cette division en elle-même risque de diminuer aussi la valeur du terrain, puisque vous allez avoir des prospects avec le voisin proche. Et le fait de diviser un terrain peut diminuer la valeur du bien lui-même.
Et donc, ça, c'est pour les formalités. Et à qui je dois s'adresser, mais également pour toutes ces formalités?
Alors, bien évidemment, il va y avoir la mairie pour les autorisations administratives. Il faut demander. Il faudra bien surveiller aussi, en cas de division, les problèmes de servitude. Puisque vous allez avoir deux terrains, et l'on a le besoin de passer, d'accéder, de passer des réseaux, le cas échéant. Pour cela, il faut passer par un géomètre qui, lui, va faire cette division en premier lieu.
Qui va s'occuper de toutes les démarches.
Il y aura aussi, peut-être rajouter un dernier point, parce qu'on ne pense pas à ça. Mais sûrement de la fiscalité à payer sur ce terrain, parce que du alors, coup, ce n'est plus sa résidence principale s'il le vend.
Exactement. La fiscalité, c'est le point auquel il faut faire très attention, car quand on vend sa résidence principale, on est exonéré de plus-value, voilà. À la date d'aujourd'hui. Par contre, si on scinde sa propriété et l'on vend le terrain en tant que terrain à bâtir, par exemple, donc sous réserve toujours d'avoir les autorisations pour bâtir, là, ce n'est plus la résidence principale. Donc à ce moment-là, on est soumis au régime des plus-values. Donc, si on vend l'ensemble en entier, eh bien, on n'a pas de plus-value du tout sur l'ensemble. Mais si on divise, on ne va pas avoir de plus-value sur la maison en elle-même. Mais par contre, on aura de la plus-value à payer sur la part de terrain.
Donc, tout ça est à prendre en compte dans le calcul.
Tout ça, effectivement, est à prendre en
compte. Sachant qu'on va faire construire, on va vendre à quelqu'un qui va construire sur notre terrain, peut-être dévaloriser ma maison qui aujourd'hui était isolée, s'y construire... C'est des calculs...
Tout à fait. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faudrait faire pour optimiser, il faudrait tout d'abord vendre la maison.
Oui, mais c'est pas, il n'a pas envie de vendre sa maison.
Oui, mais on ne sait jamais. Ici, dans le meilleur sens pour lui, souvent, il peut vendre sa maison, être exonéré de plus-value, faire construire sur le terrain qu'il a détaché.
Mais bien sûr.
Et à ce moment-là... Habiter dans cette nouvelle maison qu'il a créée et au bout de quelques années revendre
un petit conseil intéressant.
Voilà. Alors ça c'est astucieux et c'est la raison pour laquelle il faut toujours bien consulter un bon notaire justement ces cas-là. Merci l'ami Vincent.
Merci beaucoup, merci Sylvain Plantelin. Merci. À très bientôt, on vous retrouve à Saint-Germain là, votre étude et merci au mois prochain.
Voilà, pour cette séquence ça vous concerne, toujours très pratique, on a appris plein de choses aujourd'hui. On vous retrouve les amis le mois prochain pour ça vous concerne, troisième partie justement, trois séquences avec notaire, avocat, agent immobilier et aussi autres selon les sujets. Merci à vous, merci Sylvain Plantelin. Je rappelle que vous êtes notaire à Saint-Germain-en-Laye. Et si vous jamais vous cherchez un notaire à Saint-Germain-en-Laye, la bonne réponse est votre étude. Merci, à tout de suite.
Le grand rendez-vous de l'immobilier. Guillaume Chazoulière, Sylvain Lévy-Valency.
Eh bien voilà, c'est la fin. Merci de nous avoir suivis. On est ravis d'avoir partagé cette petite heure avec vous afin de vous donner tous les tuyaux qui conviennent pour ce début d'année 2021. On vous souhaite encore une fois une très très belle année. Merci en tout cas d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux, les applications, le site de Capital et le site de Radio Immo. Un grand merci aux équipes de Capital, mais aussi aux équipes de Radio Immo. N'hésitez pas à poser vos questions sur le club Les Proprios. C'est la page Facebook de Capital. Voilà, on se retrouve le mois prochain, Guillaume.
Oui, Sylvain, on se retrouve le mois prochain, deuxième émission de l'année. On parlera du marché immobilier neuf.
Le neuf qui a beaucoup souffert d'ailleurs au dernier semestre.
On verra un petit peu à quoi ça tombe pour 2021.
On va tâcher de vous redonner un peu de baume au cœur avec les beaux projets qui arrivent. Là, le prochain numéro, les amis, c'est le 19 février à 18h05, comme d'habitude, sur la plateforme de diffusion de Capital.fr et sur Radio Mio, bien entendu. D'ici là, on vous souhaite que des bonnes choses et uniquement des bonnes choses. À très vite.
Au revoir à tous.